Bonjour à tous, Liliane sur Radio Grand Ciel pour l'émission Bonne Nouvelle. Je vais vous lire deux nouvelles de Guy de Maupassant. La première s'intitule « Le loup ». Voici ce que nous raconta le vieux marquis d'Harville à la fin du dîner de Saint-Hubert chez le baron des Ravel. On avait forcé un cerf dans le jour. Le marquis était le seul des convives qui n'eût point pris part à cette poursuite car il ne chassait jamais. Pendant toute la durée du grand repas, on n'avait guère parlé que de massacres d'animaux. Les femmes elles-mêmes s'intéressaient aux récits sanguinaires et souvent invraisemblables, et les orateurs mimaient les attaques et les combats d'hommes contre les bêtes, levaient les bras, comptaient d'une voix tonnante. Monsieur d'Harville parlait bien, avec une certaine poésie, un peu ronflante, mais pleine d'effets. Il avait dû répéter souvent cette histoire, car il la disait couramment, n'hésitant pas sur les mots choisis avec habileté pour faire image. « Messieurs, je n'ai jamais chassé, mon père non plus, mon grand-père non plus, et non plus mon arrière-grand-père. Ce dernier était fils d'un homme qui chassa plus que vous tous. Il mourut en 1764, je vous dirai comment. Il se nommait Jean, était marié, père de cet enfant qui fut mon trisaïeul, et il habitait avec son frère cadet, François d'Harville, notre château de Lorraine en pleine forêt. François d'Harville était resté garçon par amour de la chasse. Ils chassaient tous deux d'un bout à l'autre de l'année, sans repos, sans arrêt, sans lassitude. Ils n'aimaient que cela, ne comprenaient pas autre chose, ne parlaient que de cela et ne vivaient que pour cela. Ils avaient au cœur cette passion terrible, inexorable. Elle les brûlait, les ayant envahis tout entiers, ne laissant de place pour rien d'autre. Ils avaient défendu qu'on les dérangeât jamais en chasse pour aucune raison. Mon trisaïeul naquit pendant que son père suivait un renard et Jean d'Harville n'interrompit point sa course, mais il jura « Nom d'un nom, ce gredin-là aurait bien pu attendre après la laïe. » Son frère François se montrait encore plus emporté que lui. Dès le lever, il allait voir les chiens, puis les chevaux, puis il tirait des oiseaux autour du château, jusqu'au moment de partir pour forcer quelques grosses bêtes. On les appelait dans le pays « Monsieur le Marquis et Monsieur le Cadet ». Les nobles d'alors ne faisaient point comme la noblesse occasion de notre temps qui veut établir dans les titres une hiérarchie descendante, car le fils d'un marquis n'est pas plus comte, ni le fils d'un vicomte baron que le fils d'un général n'est colonel de naissance. Mais la vanité mesquine du jour trouve profit à cet arrangement. Je reviens à mes ancêtres. Ils étaient, paraît-il, démesurément grands, osseux, poilus, violents et vigoureux. Le jeune, plus haut encore que l'aîné, avait une voix tellement forte que, suivant une légende dont il était fier, toutes les feuilles de la forêt s'agitaient quand il criait. Et lorsqu'ils se mettaient en selle tous deux pour partir en chasse, ce devait être un spectacle superbe de voir ces deux géants enfourcher leurs grands chevaux. Or, vers le milieu de l'hiver de cette année 1764, les froids furent excessifs et les loups devinrent féroces. Ils attaquaient même les paysans attardés, rôdaient la nuit autour des maisons, hurlaient du coucher du soleil à son lever et dépeuplaient les étables. Et bientôt une rumeur circula. On parlait d'un loup colossal, au pelage gris, presque blanc, qui avait mangé deux enfants, dévoré le bras d'une femme, étranglé tous les chiens de garde du pays et qui pénétrait sans peur dans les enclos pour venir flairer sous les portes. Tous les habitants affirmaient avoir senti son souffle qui faisait vaciller la flamme des lumières. Et bientôt, une panique courut par toute la province. Personne n'osait plus sortir dès que tombait le soir. Les ténèbres semblaient hantées par l'image de cette bête. Les frères d'Harville résolurent de la trouver et de la tuer, et ils convièrent à de grandes chasses tous les gentilshommes du pays. Ce fut en vain. On avait beau battre les forêts, fouiller les buissons, on ne le rencontrait jamais. on tuait des loups, mais pas celui-là. Et chaque nuit qui suivait la battue, l'animal, comme pour se venger, attaquait quelques voyageurs ou dévorait quelques bétails, mais toujours loin du lieu où on l'avait cherché. Une nuit enfin, il pénétra dans l'étable au port du château d'Harville et mangea les plus beaux élèves. Les deux frères furent enflammés de colère, considérant cette attaque comme une bravade du monstre, une injure directe, un défi. Ils prirent tous leurs forts limiers, habitués à poursuivre les bêtes redoutables, et ils se mirent en chasse, le cœur soulevé de fureur. Depuis l'aurore jusqu'à l'heure où le coucher empourpré descendit derrière les grands arbres nus, ils battirent les fourrés, sans rien trouver. Tous deux, enfin, furieux et désolés, revenaient au pas de leurs chevaux par une allée bordée de broussailles et s'étonnaient de leur science déjouée par ce loup, saisi soudain d'une sorte de crainte mystérieuse. L'aîné disait « Cette bête-là n'est point ordinaire. On dirait qu'elle pense comme un homme. » Le cadet répondit « On devrait peut-être faire bénir une balle par notre cousin l'évêque. » Ou prier quelques prêtres de prononcer les paroles qu'il faut. » Puis ils se turent. Jean reprit : Regarde le soleil s'il est rouge, le grand loup va faire quelque malheur cette nuit. » Il n'avait point fini de parler que son cheval se cabra, celui de François se mit à ruer. Un large buisson couvert de feuilles mortes s'ouvrit devant eux, et une bête colossale, toute grise, surgit, qui détala à travers le bois. Tous deux poussèrent une sorte de grognement de joie et se courbant sur l'encolure de leurs pesants chevaux, ils les jetèrent en avant d'une poussée de tout leur corps, les lançant d'une telle allure, les excitant, les entraînant, les affolant de la voix, du geste et de l'éperon, que les forts cavaliers semblaient porter de lourdes bêtes entre leurs cuisses et les enlever comme s'ils s'envolaient. Ils allaient ainsi ventre à terre, crevant les fourrés, coupant les ravins, grimpant les côtes, dévalant les gorges et sonnant du corps à plein poumon pour attirer leurs gens et leurs chiens. Et voilà que soudain, dans cette course éperdue, mon aïeul heurta du front une branche énorme qui lui fendit le crâne. Et il tomba raide mort sur le sol, tandis que son cheval affolé s'emportait, disparaissait dans l'ombre, enveloppant les bois. Le cadet d'Harville s'arrêta net, sauta par terre, saisit dans ses bras son frère, et il vit que la cervelle coulait de la plaie avec le sang. Alors il s'assit près du corps, posa ses genoux, la tête défigurée et rouge, et il attendit en contemplant cette face immobile de l'aîné. Peu à peu, une peur l'envahissait, une peur singulière qu'il n'avait jamais sentie encore, la peur de l'ombre, la peur de la solitude, la peur du bois désert et la peur aussi du loup fantastique qui venait de tuer son frère pour se venger d'eux. Les ténèbres s'épaississaient, le froid aigu faisait craquer les arbres. François se leva, frissonnant, incapable de rester là plus longtemps, se sentant presque défaillir. On n'entendait plus rien. Ni la voix des chiens, ni le son des corps, tout était muet par l'invisible horizon. Et ce silence morne du soir glacé avait quelque chose d'effrayant et d'étrange. Il saisit dans ses mains de colosse le grand corps de Jean, le dressa et le coucha en travers sur la selle pour le reporter au château, puis il se remit en marche doucement, l'esprit troublé, comme s'il était gris, poursuivi par des images horribles et surprenantes. Et brusquement, dans le sentier qu'envahissait la nuit, une grande forme passa. C'était la bête. Une secousse d'épouvante agita le chasseur. Quelque chose de froid, comme une goutte d'eau, lui glissa le long des reins, et il fit ainsi qu'un moine hanté du diable un grand signe de croix éperdu à ce retour brusque de l'effrayant rôdeur. Mais ses yeux retombèrent sur le corps inerte couché devant lui. Et soudain, passant brusquement de la crainte à la colère, il frémit d'une rage désordonnée. Alors, il piqua son cheval et s'élança derrière le loup. Il le suivait par les taillis, les ravines et les futaies, traversant des bois qu'il ne connaissait plus, l'œil fixé sur la tache blanche qui fuyait dans la nuit descendue sur la terre. Son cheval aussi semblait animé d'une force et d'une ardeur inconnues. Il galopait le cou tendu droit devant lui, heurtant aux arbres rochers la tête et les pieds du mort jetés en travers sur la selle. Les ronces arrachaient les cheveux, le front battant les troncs énormes, les éclaboussaient de sang, les éperons déchirés des lambeaux d'écorce. Et soudain, l'animal et le cavalier sortirent de la forêt et se ruèrent dans un vallon comme la lune apparaissait au-dessus des monts. Ce vallon était pierreux, fermé par des roches énormes sans issue possible, et le loup, acculé, se retourna. François, alors, poussa un hurlement de joie que les échos répétèrent comme un roulement de tonnerre, et il sauta de cheval, son coutelas à la main. La bête hérissée, le dos rond, l'attendait. Ses yeux luisaient comme deux étoiles. Mais avant de livrer bataille, le fort chasseur, empoignant son frère, l'assit sur une roche et soutenant avec des pierres sa tête, qui n'était plus qu'une tache de sang, il lui cria dans les oreilles, comme s'il eût parlé à un sourd, « Regarde, Jean, regarde ça !» Puis il se jeta sur le monstre. Il se sentait fort à culbuter une montagne, à broyer des pierres dans ses mains. La bête le voulut mordre, cherchant à lui fouiller le ventre, mais il l'avait saisi par le cou sans même se servir de son arme, et il l'étranglait doucement, écoutant s'arrêter les souffles de sa gorge et les battements de son cœur. Et il riait, jouissant éperdument, serrant de plus en plus sa formidable étreinte, criant dans un délire de joie « Regarde, Jean, regarde !» Toute résistance cessa. Le corps du loup devint flasque. Il était mort. Alors François, le prenant à plein bras, l'emporta et le vint jeter aux pieds de l'aîné en répétant d'une voix attendrie « Tiens, tiens, mon petit Jean, le voilà !» Puis il replaça sur sa selle les deux cadavres l'un sur l'autre et il se remit en route. Il rentra au château, riant et pleurant, comme Gargantua à la naissance de Pantagruel, poussant des cris de triomphe et trépignant d'allégresse en racontant la mort de l'animal et gémissant et s'arrachant la barbe en disant celle de son frère. Et souvent plus tard, quand il reparlait de ce jour, il prononçait les larmes aux yeux. Si seulement ce pauvre Jean avait pu me voir étrangler l'autre, il serait mort content, j'en suis sûr. La veuve de mon aïeul inspira à son fils orphelin l'horreur de la chasse qui s'est transmise de père en fils jusqu'à moi. Le marquis d'Harville se tut. Quelqu'un demanda « Cette histoire est une légende, n'est-ce pas ? » Et le conteur répondit, « Je vous jure qu'elle est vraie d'un bout à l'autre. » Alors une femme déclara d'une petite voix douce, « C'est égal, c'est beau d'avoir des passions pareilles. » Thank you. voici la dernière des nouvelles de Guy de Maupassant que je vais vous lire, qu'il a intitulée « Conte de Noël ». Le docteur Bonenfant cherchait dans sa mémoire, répétant à mi-voix, « Un souvenir de Noël ? Un souvenir de Noël ?» Et tout à coup, il s'écria, « Mais si, j'en ai un ! Et un bien étrange encore ! C'est une histoire fantastique. J'ai vu un miracle. Oui, mesdames, un miracle, la nuit de Noël !» Cela vous étonne de m'entendre parler ainsi, moi qui ne crois guère à rien. Et pourtant, j'ai vu un miracle. Je l'ai vu, dis-je, vu de mes propres yeux, vu ce qui s'appelle vu. En ai-je été fort surpris? Non pas. Car si je ne crois point à vos croyances, je crois à la foi, et je sais qu'elle transporte les montagnes. Je pourrais citer bien des exemples, mais je vous indignerai et je m'exposerai aussi à amoindrir les faits de mon histoire. Je vous avouerai d'abord que si je n'ai pas été fort convaincu et converti par ce que j'ai vu, j'ai été du moins fort ému, et je vais tâcher de vous dire la chose naïvement, comme si j'avais une crédulité d'Auvergnat. J'étais alors médecin de campagne, habitant le bourg de Rolleville en pleine Normandie. L'hiver, cette année-là, fut terrible. Dès la fin de novembre, les neiges arrivèrent après une semaine de gelée. On voyait de loin les gros nuages venir du nord et la blanche descente des flocons commença. En une nuit, toute la plaine fut ensevelie. Les fermes, isolées dans leurs cours carrés, derrière leurs rideaux de grands arbres poudrés de frimas, semblaient s'endormir sous l'accumulation de cette mousse épaisse et légère. Aucun bruit ne traversait plus la campagne immobile. Seuls les corbeaux par bandes décrivaient de longs festons dans le ciel, cherchant leur vie inutilement, s'abattant tous ensemble sur les champs livides et piquant la neige de leur grand bec. On n'entendait rien que le glissement vague et continu de cette poussière tombant toujours. Cela dura 8 jours pleins. Puis l'avalanche s'arrêta. La terre avait sur le dos un manteau épais de 5 pieds. Et pendant 3 semaines, ensuite, un ciel clair comme un cristal bleu le jour et la nuit, tout semé d'étoiles, qu'on aurait cru de givre, tant le vaste espace était rigoureux, s'étendit sur la plaine unie, dure et luisante des neiges. La plaine, les haies, les ormes, les clôtures, tout semblait mort, tué par le froid. Ni homme, ni bête ne sortait plus. Seules les cheminées des chaumières en chemise blanche révélaient la vie cachée par les minces filets de fumée qui montaient droit dans l'air glacial. De temps en temps, on entendait craquer les arbres comme si leurs membres de bois se fussent brisés sous l'écorce. Et parfois, une grosse branche se détachait et tombait, l'invincible gelée pétrifiant la sève en cassant les fibres. Les habitations semées çà et là par les champs semblaient éloignées de 100 lieues les unes des autres. On vivait comme on pouvait. Seul, j'essayais d'aller voir mes clients les plus proches, m'exposant sans cesse à rester enseveli dans quelques creux. Je m'aperçus bientôt qu'une terreur mystérieuse planait sur le pays. Un tel fléau, pensait-on, n'était point naturel. On prétendit qu'on entendait des voix la nuit, des sifflements aigus, des cris qui passaient. Ces cris et ces sifflements venaient sans aucun doute des oiseaux émigrants qui voyagent au crépuscule et qui fuient en masse vers le sud. Mais allez donc faire entendre raison à des gens affolés. Une épouvante envahissait les esprits et on s'attendait à un événement extraordinaire. La forge du père Vatinel était située au bout du hameau des Pivants, sur la grande route maintenant invisible et déserte. Or, comme les gens manquaient de pain, le forgeron résolut d'aller jusqu'au village. Il resta quelques heures à causer dans les 6 maisons qui forment le centre du pays, prit son pain et des nouvelles, et un peu de cette peur épandue sur la campagne, et il se remit en route avant la nuit. Tout à coup, en longeant une haie, il crut voir un œuf sur la neige. Oui, un œuf déposé là, tout blanc, comme le reste du monde. Il se pencha. C'était un œuf, en effet. D'où venait-il? Quelle poule avait pu sortir du poulailler et venir pondre en cet endroit? Le forgeron s'étonna, ne comprit pas, mais il ramassa l'œuf et le porta à sa femme. « Tiens, la maîtresse, v'là un œuf que j'ai trouvé sur la route. » La femme hocha la tête. « Un œuf sur la route ? Par ce temps-ci ? T'es sous, bien sûr. » « Mais non, la maîtresse, même qu'il était au pied d'une haie, et encore chaud, pas gelé, le v'là. Je me l'ai mis sur l'estomac pour qu'il ne refroidisse pas. Tu le mangeras pour ton dîner. » L'œuf fut glissé dans la marmite où mijotait la soupe, et le forgeron se mit à raconter ce qu'on disait par la contrée. La femme écoutait toute pâle. « Pour sûr que j'ai entendu des sifflets l'autre nuit, même qu'il semblait venir de la cheminée. » On se mit à table, on mangea la soupe d'abord, puis pendant que le mari étendait du beurre sur son pain, la femme prit l'œuf et l'examina d'un air méfiant. « S'il y avait quelque chose dans cet œuf, qu'est-ce que tu veux qu'il y ait ?»« Je sais pas, mais allons, mange-le, ne fais pas ta bête. » Elle ouvrit l'œuf. Il était comme tous les œufs, et bien frais. Elle se mit à le manger en hésitant, le goûtant, le laissant, le reprenant. Le mari disait « Eh bien, quel goût qu'il a, cet œuf !» Elle ne répondit pas et elle acheva de l'avaler. Puis soudain, elle planta sur son homme des yeux fixes, hagards, affolés, leva les bras, les tordus et, convulsée de la tête aux pieds, roula par terre en poussant des cris horribles. Toute la nuit, elle se débattit en des spasmes épouvantables, secouée de tremblements effrayants, déformée par de hideuses convulsions. Le forgeron, impuissant à la tenir, fut obligé de la lier, et elle hurlait sans repos d'une voix infatigable. « Je l'ai dans le corps, je l'ai dans le corps !» Je fus appelé le lendemain. J'ordonnai tous les calmants connus, sans obtenir le moindre résultat, elle était folle. Alors, avec une incroyable rapidité, malgré l'obstacle des hautes neiges, la nouvelle, une nouvelle étrange, courut de ferme en ferme. La femme au forgeron qu'est possédée. Et on venait de partout, sans oser pénétrer dans la maison, on écoutait de loin ces cris affreux poussés d'une voix si forte qu'on ne les aurait pas crus d'une créature humaine. Le curé du village fut prévenu. C'était un vieux prêtre naïf. Il accourut en surplis comme pour administrer un mourant et il prononça en étendant les mains les formules d'exorcisme pendant que quatre hommes maintenaient sur un lit la femme écumante et tordue. Mais l'esprit ne fut point chassé. Et la Noël arriva sans que le temps eût changé. La veille au matin, le prêtre vint me trouver. « J'ai envie, dit-il, de faire assister à l'office de cette nuit cette malheureuse. Peut-être Dieu fera-t-il un miracle en sa faveur, à l'heure même où il naquit d'une femme. » Je répondis au curé, « Je vous approuve absolument, monsieur l'abbé, si elle a l'esprit frappé par la cérémonie, et rien n'est plus propice à l'émouvoir, elle peut être sauvée sans aucun remède. » Le vieux prêtre murmura, « Vous n'êtes pas croyant, docteur, mais aidez-moi, n'est-ce pas ? Vous vous chargez de l'amener ?» Et je lui promis mon aide. Le soir vint, puis la nuit, et la cloche de l'église se mit à sonner, jetant sa voix plaintive à travers l'espace morne sur l'étendue blanche et glacée des neiges. Des êtres noirs s'en venaient lentement par groupes, dociles, aux cris d'airain du clocher. La pleine lune éclairée d'une lueur vive et blafarde tout l'horizon rendait plus visible la pâle désolation des champs. J'avais pris quatre hommes robustes et je me rendis à la forge. La possédée hurlait toujours, attachée à sa couche. On la vêtit proprement malgré sa résistance éperdue et on l'emporta. L'église était maintenant pleine de monde, illuminée et froide. Les chantres poussaient leurs notes monotones. Le serpent ronflait, la petite sonnette de l'enfant de cœur tintait, réglant les mouvements des fidèles. J'enfermai la femme et ses gardiens dans la cuisine du presbytère et j'attendis le moment que je croyais favorable. Je choisis l'instant qui suit la communion. Tous les paysans, hommes et femmes, avaient reçu leur Dieu pour fléchir sa rigueur. Un grand silence planait pendant que le prêtre achevait le mystère divin. Sur mon ordre, la porte fut ouverte et mes quatre aides apportèrent la folle. Dès qu'elle aperçut les lumières, la foule à genoux, le cœur en feu et le tabernacle doré, elle se débattit d'une telle vigueur qu'elle faillit nous échapper et elle poussa des clameurs si aiguës qu'un frisson d'épouvante passa dans l'église. Toutes les têtes se relevèrent et même des gens s'enfuirent. Elle n'avait plus la forme d'une femme, crispée et tordue en nos mains, le visage contourné, les yeux fous. On la traîna jusqu'aux marches du chœur, et puis on la tint fortement accroupie à terre. Le prêtre s'était levé, il attendait. Dès qu'il la vit arrêtée, il prit en ses mains l'encensoir saint de rayons d'or, avec l'hostie blanche au milieu, et s'avançant de quelques pas, il l'éleva de ses deux bras tendus, au-dessus de sa tête, le présentant au regard effaré de la démoniaque. Elle hurlait toujours, l'œil fixé, tendu sur cet objet rayonnant. Et le prêtre demeurait tellement immobile qu'on l'aurait pris pour une statue. Et cela dura longtemps, longtemps. La femme semblait saisir de peur. Fascinée, elle contemplait fixement l'encensoir, secouée encore de tremblements terribles, mais passagers, et criant toujours, mais d'une voix moins déchirante. Et cela dura encore longtemps. On eût dit qu'elle ne pouvait plus baisser les yeux, ils étaient rivés sur l'hostie, elle ne faisait plus que gémir, et son corps raidi s'amollissait, s'affaissait. Toute la foule était prosternée, le front par terre. La possédée maintenant baissait rapidement les paupières, puis les relevait aussitôt, comme impuissante à supporter la vue de son Dieu. Elle s'était tue. Et puis soudain, je m'aperçus que ses yeux demeuraient clos. Elle dormait du sommeil des somnambules, vaincue par la contemplation persistante de l'encensoir au rayon d'or, terrassée par le Christ victorieux. On l'emporta inerte pendant que le prêtre montait vers l'autel. L'assistance bouleversée entonna un Te Deum d'action de grâce. Et la femme du forgeron dormit 40 heures de suite, puis se réveilla sans aucun souvenir de la possession ni de la délivrance. Voilà, mesdames, le miracle que j'ai vu. Le docteur Bonenfant se tut, puis ajouta d'une voix contrariée. Je n'ai pas pu refuser de l'attester par écrit.